Salut les jeunes.
Non, tout va bien, t'es en PFM.
Non mais là ça va. Là,
une programmation spécifique destinée au jeune public, l'une des plus étoffées en Europe.
Radio Campus 88.
La guerre du Vietnam bat son plein. L'Amérique a envoyé ses GIs au sud.
Contestation rime avec répression. Contestation, répression.
Le cortège est protégé par 5 véhicules blindés et un hélicoptère.
Ce sont aussi les premiers bombardements de l'US Air Force au nord. 65, c'est aussi la crise de Saint-Domingue.
Cette mesure provoque une vague d'émeutes d'une ampleur exceptionnelle. 24 morts en 3 jours et des troubles. Échec d'un coup d'État, toujours déclenché au palais de la Syrie.
De plus en plus, l'Amérique s'érige en gendarme du monde. Et Ben Barka ne cesse de dénoncer partout où il se rend l'impérialisme de l'Amérique et de ses alliés.
Il a provoqué une rébellion militaire qui a abouti à une loi d'Alfonsine, selon laquelle les militaires d'un rang inférieur à celui de colonel n'étaient plus passibles de poursuites.
Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash.
Washington est en feu. Les Noirs descendent dans la rue, plus de 500 magasins ravagés, des quartiers entiers incendiés, bilan, 7 morts, 1200 blessés.
À bâton rompu sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, bienvenue à vous aussi. Vous nous faites l'amitié d'être à l'écoute tous les deuxièmes mardis du mois. Les amis du monde diplomatique d'Orléans sont mes invités pour parler de l'édition en cours du mensuel Alter Mondialiste. Ce mardi, Pierre est avec nous. Bonsoir Pierre.
Bonsoir tout le monde.
Est-ce qu'on t'entend bien?
Alors, oui. Oui. Est-ce qu'on m'entend? J'ai l'impression. Bonsoir.
Moi je t'entends pas dans le casque personnellement.
Ben non, oui.
Ah, c'est bon. Attends.
Oula, bonsoir, disais-je donc. Bonsoir.
Mais toujours très loin, je n'arrive pas à savoir ce qui se passe avec les micros. Vas-y, essaye celui-ci.
Bonsoir tout le monde. Ah oui, ça marche là, c'est vrai.
Il y a un truc.
C'est vrai.
Ouais. Bonsoir Pierre. Alors tu as choisi de nous décrypter, comme à ton habitude, deux ou trois articles.
Il y en a deux ou trois. Les deux, on va en discuter ensemble. Ouais, je vais parler de la Russie et des sanctions qui ne fonctionnent pas.
C'est ça, le peu d'effet des sanctions économiques lancées par les pays occidentaux.
C'est ça.
Contre la Russie liée à la guerre en Ukraine. Et un autre sur... Beyoncé, le nouvel album de Beyoncé, d'une certaine Beyoncé.
On pourra l'évoquer ensemble, oui.
Il y a aussi ça dans le Diplo. Victor, bonsoir.
Bonsoir Hassan, bonsoir à toutes et à tous.
Toi, tu vas nous parler d'un article sur...
La Corée du Nord.
Ouais, si c'est... C'est un peu drôle.
Oui. Alors, c'était un article qui était très surprenant parce qu'il change complètement la perspective qu'on peut avoir du pays en fait en tant qu'occidental. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un pays va-t-en-guerre avec un petit dictateur va-t-en-guerre. Oui, c'est ça. Mais en fait, la situation est plus complexe que cela.
Oui, bon, mais en même temps, en ce moment, ils sont en train de balancer la Corée du Nord, je veux dire, des sacs de caca. Sur
oui.
Et ils sont pour le tri.
Bonsoir à toi, Henri.
Bonsoir à tous.
Bonsoir. Dans quelques minutes, tu vas nous présenter le sommaire de ce diplôme de juin. Il n'y a pas de dossier ?
Il n'y a pas de dossier. Néanmoins, c'est un diplôme très riche. Et d'ailleurs, la rédaction dans la lettre qu'ils adressent régulièrement fait remarquer qu'ils sont obligés de faire des choix dans les articles.
Bien sûr.
Vu la densité de l'actualité. Et ce n'est pas ce qui s'est passé ce dernier dimanche qui va enlever un sujet. Au contraire.
Eh bien, ce soir, c'est pas l'habitude, mais nous accueillons Mourad Guichard, Mourad, journaliste indépendant, qui d'habitude ouvre les autres émissions à bâton rompu les autres mardis. Mourad, aujourd'hui, vous voulez nous parler d'une radio qu'il aime bien, et moi aussi, et vous aussi, je crois. Il s'agit de France Culture. Mourad, je l'ai eu au téléphone il y a quelques heures. Bonsoir, Mourad.
Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Hassan.
Mourad Guichard, journaliste indépendant. Dans ta chronique de ce mardi, tu nous parles d'une radio que tu aimes bien, France Musique. Tu as rencontré son directeur, Marc Voinchet. Vous avez notamment parlé de la grille d'été et de la volonté de la station d'avoir plus d'auditeurs jeunes.
Oui, alors comme le dit Marc Voinchet, donc j'étais jeudi dernier donc à la maison de la radio, à la maison ronde, pour la présentation de la grille d'été. Grille d'été qui va être extrêmement riche, notamment avec toute une série de feuilletons sur des musiciens, sur des artistes, mais aussi et surtout la station, alors que tu dis que je l'aime bien, en fait je l'adore, hein. C'est vraiment ma station phare.
On est quelques heures,
voilà, donc j'ai pas beaucoup de distance. Voilà, j'ai pas beaucoup de distance avec cette station et effectivement j'étais donc avec Marc Boinchet et Stéphane Grand qui sont respectivement directeurs et responsables des programmes, donc ils sont venus présenter autour des animateurs, des producteurs vedettes de la station cette fameuse grille qui va en fait faire parcourir et la France et l'Europe à ses auditeurs et auditrices par le biais notamment de partenariat avec une série de radios à travers l'Europe, de radios publiques qui vont permettre de diffuser un certain nombre, à l'instar de Bayreuth, un certain nombre de festivals, de concerts prestigieux, de concerts d'été prestigieux, et également en France, bien évidemment, puisque France Musique est partenaire de plusieurs festivals d'été. Et donc qui va permettre aux gens, qui partent en vacances, soit qui ne partent pas en vacances, de pouvoir voyager à travers toutes ces richesses musicales, comme dont notamment France Musique a le secret, et va maintenir évidemment tout son travail sur les podcasts, sa diffusion de podcasts et de rencontres avec des artistes absolument prestigieux. Et donc il y a effectivement, mais Marc Voinchet l'avait déjà évoqué, je l'avais déjà interviewé sur ça, sans faire de jeunisme, il souhaite rajeunir, parce que c'est vrai que France Musique a un niveau, un âge moyen assez élevé, il souhaite évidemment le faire baisser un petit peu pour arriver à toucher les 30, 40 ans, et idéalement, évidemment, et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui sur Radio Campus, le milieu étudiant, sachant que j'avais notamment interviewé l'un des producteurs de l'émission En Piste, qui m'avait révélé qu'il était intervenu auprès de Sciences Po, et que là-bas, il avait posé la question de savoir si, donc on est à Sciences Po Paris, hein, de savoir si les étudiants étaient ou non déjà allés à un concert de musique classique. En fait, aucun n'y était allé. Et il était désolé parce que pour lui, il y avait un problème. C'est-à-dire que ces jeunes gens qui allaient prendre des responsabilités, qui allaient peut-être devenir responsables de radio, responsables d'administration, responsables de lieux de pouvoir, en fait, n'avaient pas la fibre musicale. Et ça pose un problème culturel, tout simplement. Et donc, voilà, il y a un travail à faire là-dessus. Et ce travail est fait en partie, justement, par l'équipe dirigeante actuelle de France Musique, qui essaye, notamment à travers des podcasts, comme je vous en parlais, essaye de rendre plus accessible à une certaine partie de la population, la plus jeune, tout ce savoir, toute cette culture et tout ce savoir-faire qui est produit par les génialissimes journalistes et producteurs de France Musique.
On écoute Marc Voinchet.
C'est toujours un peu le pari que l'on fait, à savoir que une grille d'été, je ne vous cache pas que dans les temps qui courent, on essaye malgré tout de ne pas faire, nous, une grille d'été dite à l'économie, comme ça peut arriver dans d'autres médias. Et je dis ça sans critique pour les collègues et les autres. Mais c'est vrai qu'on se dit que nous, on est une chaîne, comme on dit, petite chaîne, dite chaîne de niche, avec un répertoire qui parfois impressionne, fait un peu peur aux gens. C'est pas pour moi la musique classique ou le jazz. Bon, on se dit que si l'été, les programmes que l'on fait en essayant d'être au maximum de ce qu'on sait faire, on touche de nouveaux publics qui viennent nous voir l'été par hasard et qui trouvent ça pas trop mal, on se dit qu'on espère les garder. Quand on dit rajeunir, moi je veux pas faire de jeunisme non plus. France Musique est une chaîne qui est écoutée par un public dit un peu plus âgé que la moyenne. C'est lié à des questions socioculturelles dont on ne va pas faire l'histoire maintenant, la musique classique. Mais c'est vrai que, sans vouloir taquiner le jeune, c'est-à-dire le jeune qui aurait entre 16 et 22 ans, dont on sait que ce n'est pas la peine d'essayer, s'il vient, il vient, mais bon. Mais si on essaie en revanche de dire à une frange de la population qui se dit souvent encore la musique classique, c'est pas pour moi, et que c'est un, allez, on va dire un vieux cadra ou un jeune quinca, cette personne-là, dont on peut se dire que c'est le moment dans la vie où il peut rencontrer cette musique-là sans que ça l'effraye, ou que si ça l'effraye, il se rende compte que, bah, que c'est pas mal, enfin qu'il y trouve son compte, c'est évidemment, enfin c'est gagné, c'est un truc qui est intéressant de gagner, parce qu'après, pour être très clair, on sait très bien qu'un auditeur qui découvre une radio, plus tôt il la découvre, plus il lui est fidèle. Donc on le garde. Voilà. Après maintenant, si je suis un peu cynique, vu le vieillissement de la population, on a un boulevard en France Musique. Puisque, voilà, bon. Non mais voilà, mais c'est vrai que... Et ça part souvent d'exemples... Il y a les études, il y a tout ce qu'on travaille de façon très scientifique ou presque scientifique sur ces questions des publics. Moi, je me base souvent sur des questions... au fond, mais parce qu'elles sont banales, personnelles. Quand je vois mes cousins à Revel qui me disent et qui me regardent comme si tout d'un coup j'étais devenu le pape en étant devenu directeur de France Musique, qui me disent la musique, ta musique là quand même c'est pas pour moi, et je leur dis mais t'as essayé, bon. Et après je pense qu'il faut être dans une posture, ça c'est ce sont des choses comme ça moi que je demande aux producteurs de la chaîne. Les producteurs de France Musique, tous producteurs et productrices, tous et toutes sont plus compétents que moi. Moi, je leur dis juste, n'oublions pas des règles de radio, d'accueil, de générosité et de partage. C'est le sens de la radio. Ce que faisait l'Odéon à une époque, ce que fait Alex Dutille, ce que font plein d'entre eux. Ne perdez pas ça de vue, cette histoire d'accueil. Et surtout, de faire très attention à ce que nous a reproché à l'époque, l'entre-soi. Parce que ça, en revanche, c'est vrai que c'est mortel.
Ça, c'est mortel, dit Marc Voinchet. France Musique se porte plutôt pas mal, Mourad, hein, en termes d'écoute. Plus d'un million d'auditeurs quotidiens pour le sondage Médiamétrie de janvier-mars dernier. Et un gain de 107 000 auditeurs sur l'année 2023-2024. La radio, la grille d'été, démarrera le 1er juillet prochain et ira jusqu'au 25 août. Avec au programme de grandes sagas musicales et la couverture de festivals, comme tu disais, Mourad. On écoute Marc Voinchet.
C'est notre job d'aller dans les festivals, d'avoir des équipes techniques. Après, là où on a un luxe, nous inouï, c'est que quand je dis évidemment qu'on va amener l'auditeur à Salzbourg, à Londres, à Bayreuth, c'est des accords avec les radios. Donc on a des radios européennes, donc la radio allemande qui va capter Bayreuth nous offre, il y a un forfait, je ne vais pas entrer dans les détails, mais nous offre la diffusion. Comme moi, j'offre Marciac ou Montpellier aux copains des pays francophones ou dans le monde. C'est-à-dire que je pense que par exemple la soirée Ravel, enfin la soirée du 9 juillet où un inédit de Ravel va être joué, je pense qu'on va être repris par beaucoup beaucoup de radios européennes par exemple. Donc ça, c'est vrai que c'est la force du service public, hein, et je trouve bien par les temps qui courent de rappeler que le service public à des missions qui ne sont pas totalement obsolètes aujourd'hui et qui surtout font leur preuve en matière de rencontre du public. Parce que même nous, comme je dis toujours à France Musique, le même nous, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle les petites chaînes, et France Culture est dedans, parce que voilà, France Culture, FIP, bon, même nous, ça ne marche pas trop mal dans la rencontre avec un public. Alors c'est sûr qu'il ne faut pas s'arrêter là. Plus on a de public, mieux c'est pour l'existence et la pérennité de nos chaînes. Mais voilà, ces missions-là, la grille d'été, elle ne rogne pas dessus. On est vraiment à fond là-dessus.
On va vous souhaiter un bon été, Marc Voinchet.
Nous allons fondre de plaisir en écoutant France Musique, mon cher Mourad.
Très naturellement. Merci beaucoup.
Merci.
fondre de bonheur, hein, c'est le motto, hein, de France Musique pour cet été, Mourad.
Absolument. Et alors, Marc Voinchet a rappelé effectivement ce qui va l'événement. Je vous laisse aller découvrir ça sur le site. L'événement autour de Maurice Ravel, mais il y a également, et je pense à la programmation musicale très riche de Radio Campus, il va y avoir également un événement autour avec Florian Royer, un événement autour de la Jamaïque, donc la Jamaïque musicale avant Bob Marley. Et moi, je suis absolument incapable, infoutu, je sais pas toi là-dessus, Hassan, je suis infoutu d'évoquer ou d'imaginer la musique jamaïcaine avant Bob Marley. Et c'est ça que va nous faire notamment découvrir la grille d'été, l'excellente grille d'été de France Musique.
Il y a les podcasts, hein, et il y a le direct, évidemment. On va se mettre à l'écoute de France Musique, amis jeunes. Allez voir, vraiment, allez découvrir, juste. Hein. Mourad a découvert il y a quelques années, et là, il vous a dit, il est amoureux fou de cette chaîne.
Exactement.
Ouais. Merci à toi, Mourad. On revient à des choses peut-être plus difficiles la semaine prochaine, vu l'actualité politique. On te souhaite une très bonne semaine.
Merci à vous aussi. À très bientôt, avec grand plaisir.
À bâton rompu, avec Hassan Kerim.
Nous revenons en studio. Une petite question. Vous êtes des auditeurs, hein, de...
Oui, oui, moi j'aime beaucoup. Par exemple, France Musique s'écoute souvent. En particulier, mais pas que ça, l'émission d'Alex Dutille,
absolument,
Open,
oui,
Jazz, vraiment, qui m'a fait découvrir vraiment des musiciens de jazz très bons. Et puis, ce qu'il dit aussi sur la musique, effectivement, quelquefois l'entre-soi, alors qu'il devrait y avoir plein de passerelles. Par exemple, à la Philharmonie, il y aura bientôt Brad Meldow, que même mon voisin Pierre est venu écouter à la Philharmonie déjà. Et Brad Meldow ne va pas jouer du jazz, parce que c'est un excellent pianiste, il peut tout jouer. Il va jouer du Fauré, ouais, notamment.
Ouais, évidemment, Brad Meldow, grand souvenir de Orléans Jazz. Hein. Tu écoutes la musique
Moi, j'écoute un peu de musique classique, principalement des romantiques russes, genre Tchaïkovski, ce genre de trucs, etc. Et tout. Mais après, j'avoue que j'écoute pas France Musique, parce que le problème, c'est qu'en voiture, ça rend très très mauvais le classique, parce que du coup, il y a besoin d'une ambiance, il y a besoin d'une salle, il y a besoin de conditions d'écoute, qui font que malheureusement, dans la voiture, qui est le principal endroit où on écoute la radio, la musique classique, ça passe difficilement.
Nous revenons donc au diplôme du mois de juin, Henri, avec un sommaire riche.
Oui,
comme le
oui, décidément, on est entre riches. On est... voilà, j'espère que le prochain ministre des Finances ne va pas nous taxer.
Ça serait bien.
Ça serait bien. On va voir qui c'est. Et oui, donc ce diplôme est très riche et a été, vous imaginez facilement, conçu avant... ce dimanche si animé dans les urnes. Et donc ce diplôme, d'ailleurs, qui est très souvent prémonitoire, hein, puisqu'il y a quand même un article de Grégory Zepski, « Droite en fusion », hein, qui explique que le verdict de dimanche est venu conforter, c'est-à-dire une montée des droites, pas seulement... en France, mais aussi dans beaucoup de pays européens. Évidemment, en Italie, Meloni a renforcé ses positions. Et puis, je ne vous rappelle pas ce grand démocrate qu'est Orban ou plein d'autres, et qui, malheureusement, ces gens-là ont retrouvé du lustre. Et donc... d'ailleurs, Grégory Zepski dit entame son article « Droite en fusion » en disant « La chose semble entendue, l'Europe bascule vers l'extrême droite et donc où siègent déjà des gouvernements de droite ou d'extrême droite, même italiens, hongrois, slovaques. »
Ben, je ne savais pas, tous ces pays, ouais, c'est ça, Italie, Hongrie, Slovaquie... Croatie.
Oui, oui.
Finlande, bien trop...
Pays-Bas.
Et voilà. Finlande, je crois que l'extrême droite n'a pas fait des scores.
Mais apparemment aussi, parce que... Bon, ben oui, on ne suit pas l'actualité, mais les sites...
Voilà, avec un seul credo qui malheureusement a marché, il faut le reconnaître, il y a un certain écho. La plupart de ces pays, ben, ils ont les mêmes slogans, quoi. Ils veulent défendre le véritable Occident. Et donc, vous l'avez bien compris, on rejette du coup l'islam, les immigrés de tous bords.
Les amis, donc, je vais vous manquer.
Ouais. Voilà. Et donc, ben, en France, effectivement, hein, tous ces gens-là, il faut bien que... les citoyens et tous, et pas seulement ceux qui sont évidemment qui ont des sympathies pour ces causes, malheureusement, eh bien, il faut qu'ils se disent que, par exemple, Reconquête propose de créer un ministère de la remigration. Ouais, c'est pas la première fois que nous en parlons.
Pour pas dire de la déportation.
Bah oui. Et d'ailleurs, ce qui leur plaît beaucoup, c'est l'idée des Anglais, c'est de
d'externaliser
au Rwanda en l'occurrence les immigrés qui seraient, je sais pas, ils parlent ça de toute façon comme de quantité négligeable, mais qui seraient en surplus. Donc on les renvoie dans ces immenses camps que l'on pourrait créer, notamment au Rwanda. Et donc, dans son article, décidément, il avait lu cette funeste issue avant l'heure, Grigory Zebski. C'est-à-dire qu'il nous parle notamment de LR et de Éric Ciotti, qui aujourd'hui vient de dire qu'il la laisse rapprocher, comme s'il s'en était éloigné, du Rassemblement national. Et parfois, il arrive même à faire plus à droite qu'eux.
Oui, absolument.
Ce qui est quand même assez paradoxal pour quelqu'un qui est d'origine émigrée italienne. Quand même.
Mais Bardella aussi, il est italien. Bref, c'est pas les plus beaux ressortissants de l'Italie qu'ils nous ont envoyés. Mais bref, on a aussi Monica Bellucci. Hein. Bon, on peut pas tenir à tous les coups. Donc, l'enjeu de ces élections européennes, donc avant évidemment ce verdict des urnes de ce dimanche, eh bien, Grzybowski dit que l'enjeu de ces élections européennes est de faire prévaloir des débats sociétaux, toujours plus furieux, et on ne parle pas de l'économie, du droit du travail, etc. Ça, on n'en parle pas. C'est pas intéressant.
De l'écologie, hein.
Ni même de l'écologie. Il n'y a qu'à voir le score qu'a fait Marie Toussaint. Mm-hmm. Donc, ce diplôme, il fait preuve de toujours d'autant de pertinence. Également pour les articles qui nous intéressent au niveau français. Et notamment, il y a un article extrêmement intéressant de Léa Gage, Écoquartier, un alibi en béton. C'est un article très intéressant. On peut reprocher au monde diplomatique d'être toujours du côté noir des choses, mais là, il nous parle justement de ces écoquartiers. Et ce n'est pas que une mauvaise chose, ils le disent bien, mais c'est souvent utilisé. C'est comme un produit de marketing, c'est-à-dire chez nous, on fait du verre. Alors, faut voir comment, parce que après tout, faire des écoquartiers, c'est bien. C'est même plutôt plus intelligent que de construire à tout va. Léa Gage prend exemple sur la ville de Besançon, qui a donc créé plusieurs écoquartiers, et elle analyse la situation. Elle nous dit qu'effectivement, les habitants n'ont pas été associés, par exemple. Hein. Donc ils savent des fois pas très très longtemps avant que tel ou tel immeuble va être complètement détruit. Alors certes, ils vont être relogés, mais ils savent pas trop où, et puis surtout, on leur a pas demandé leur avis, quoi. S'ils quittent le quartier, en l'occurrence, c'est l'écoquartier des Vettes, eh bien, ils vont ailleurs, mais ils savent pas toujours très longtemps à l'avance où ils vont aller. Et c'est quand même fou, ils sont mis à la porte de chez eux, que ça leur plaise ou non. Et donc, c'est une mairie écologiste,
c'est vrai.
Il faut le dire, oui. Quand même. Madame le maire a été obligée quand même, parce que un peu tardivement, puisqu'ils n'étaient pas avertis si tôt que ça, les habitants du quartier se sont mobilisés. Et du coup, la mairie a été obligée de revoir un peu sa copie, et en augmentant notamment, en particulier, le nombre de logements sociaux, qui est passé de 30% au lieu de 20% initialement. C'est-à-dire que, dans son article, Léa Gage a le mérite de bien préciser les choses, de bien les clarifier. Il y a deux visions de l'écologie et de la ville qui s'opposent. Dans cet exemple-là, mais comme ça s'est reproduit dans beaucoup, beaucoup de villes en France, c'est-à-dire que d'un côté, on veut préserver l'ancien et rénover l'ancien et l'existant, Et puis de l'autre côté, on veut compenser le manque de logements en construisant. Et puis on verdit le projet. Et les promoteurs se disent on va leur planter 2 arbres, ils seront contents. Et puis voilà. Et puis comme ça, on construit. Ça nous permet de virer de certains endroits des populations dont on ne veut plus vraiment, sous le prétexte d'instaurer une certaine mixité. Et d'ailleurs, il est rappelé, où il n'y a qu'à lire les études qui sont souvent pertinentes de la Fondation Abbé Pierre, c'est-à-dire qu'on construit de moins en moins, et on construit de moins en moins de logements sociaux, voire très sociaux. Au bout d'un moment, on se retrouve à favoriser les constructions de résidences de plus en plus luxueuses mais qui évidemment ne sont pas vouées à habiter, à loger chacun d'entre nous. Et d'ailleurs, plus on se rapproche de Paris, plus évidemment la pression est forte de la part des promoteurs à ce niveau-là. Tous les grands constructeurs, promoteurs immobiliers comme Eiffage, c'est clair, ils essaient de vendre leurs solutions aux collectivités. Et puis, et comme ça, évidemment, ils placent leur pion comme ils l'entendent. C'est un article extrêmement intéressant dans ce diplo. Encore une fois, pour ne pas trop prendre la place pour mes voisins, je ne vais pas citer tous les articles du diplo. Il y a, peut-être qu'on l'évoquera un peu avec Pierre, un article de Dominique Villepin qui est intéressant, qui dit que la guerre n'est pas le plus court chemin vers la paix. J'ai lu avec beaucoup d'attention, parce que c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, la rédaction du diplo dit que malheureusement le monde est tellement en fusion qu'ils ont du mal à tout traiter. Et on a tendance à oublier certains endroits de la planète, comme l'Afghanistan. Les talibans et l'épreuve du pouvoir, nous dit Adam Bagzo. C'est-à-dire qu'en gros, les talibans, comme les États-Unis, les Occidentaux, voire même la Russie, etc., eux, ils ont autre chose à faire. Ouais. Ils s'occupent plus vraiment d'eux. Et donc, c'est pour ça qu'ils impriment une répression phénoménale. De temps en temps, il y a un documentaire qui le relève, mais vous imaginez la situation des femmes. On est revenu à la lapidation, quand elle adultère. Mmh. Une femme ne peut pas marcher dans la rue si elle n'est pas accompagnée d'un homme, d'un tuteur masculin. Mmh. Vous voyez que donc elles vivent une vie rêvée. Et c'est vrai que comme on est focalisé sur l'Ukraine, sur la Russie, sur la Palestine, à juste titre, eh bien on en oublie ces endroits de la planète qui sont encore beaucoup secoué par un certain nombre de choses. Plein d'articles intéressants, notamment un article qui est symptomatique aussi de ce monde et en particulier de l'Europe qui est aux portes donc de la Palestine et qui est impliquée dans le conflit ukrainien. C'est De la mer partagée à la mer morcelée, un article de Philippe Leymari qui est lui aussi extrêmement intéressant. Il y a une carte qui est intéressante aussi à voir, donc je vous invite à acheter le diplo du mois de juin. Et ça explique que c'est finalement Mare Nostrum, comme on dit en latin, c'est cette mer quasi fermée est le centre, quelque part, de plein de conflits et de choses qui se jouent. Il y a des États, évidemment, qui vont essayer d'agrandir leur zone d'influence parce qu'ils veulent se protéger, parce qu'ils veulent exploiter des gisements gaziers. D'ailleurs, Philippe et Marie nous dit d'espace partagé, la Méditerranée est devenue un espace contesté. Et c'est très symptomatique avec tous ces pays qui se regardent avec les gisements gaziers, comme je disais, qui attisent des convoitises. Il y a la question de l'immigration. C'est quand même un endroit où en 2023, on a dénombré 266 940 passages de migrants, avec au moins 2800 noyés pendant cette année-là. Et donc, tout le monde se réarme sur le plan naval. Donc là aussi, les vendeurs d'armes, les marchands d'armes s'y retrouvent, avec des budgets qui ont explosé à ce niveau-là, plus 160% en Israël, plus 170% en Égypte, plus 120% en Algérie. Et donc...
tout va très bien.
Tout va très bien. Au niveau de ce commerce-là, tout va très bien. Et même... avec aussi tout ce qui se joue sur le plan diplomatique, avec la Turquie, qui occupe une place centrale et qui sait très bien en jouer, qui joue parfois les médiateurs, qui des fois attise certains conflits. Et dans son article, Philippe Leymarie fait remarquer que bien que non riverain, l'Iran joue également un rôle de premier plan en ayant une influence sur les milices chiites d'Irak, sur le Hezbollah au Liban et en Syrie, et sur les houthistes au Yémen qui sont venus évidemment faire quelques sorties du côté de la mer Rouge pour empêcher le commerce. Comme ils sont jamais très loin quand là ils peuvent y placer leurs pions et leurs intérêts, eh bien il y a la Chine qui surveille ça de très près. Dans son article d'ailleurs, Philippe Leymarie rappelle que la Chine, eh bien les deux tiers des ventes en Europe de la Chine transitent par le canal de Suez, par exemple. Et donc c'est important. Donc voilà tout ce qui certains articles de ce diplo. Qui encore une fois est très très riche, je ne peux pas tous les citer. C'est vraiment extrêmement intéressant. Là, il y a la question palestinienne vue de Moscou aussi, un article d'Irina Zviagelskaya, ça y est, je l'ai dit une fois, je ne le dirai plus. et puis, les articles que vont présenter Pierre et Victor, notamment.
Bien sûr, et notamment un article qui est intitulé Country, Rhythm and Blues et Banjo, qui parle du dernier album de Beyoncé. On va l'écouter avant. D'accord. Je vois que tu es prêt.
J'ouvre la bouche.
Tu te jettes sur le micro.
On va l'écouter.
On va écouter cet album qui est assez... comment dire, enfin, qui a fait polémique. On expliquera tout ça pourquoi. Voici Beyoncé. Elle fait de la country. Queen Bee, écoutez ça. Vous l'imaginez, elle est en train de danser avec ses danseuses, tout ça. Ben non, elle fait de la country. Les habillons cowboy.
This ain't Texas. Ain't no hold'em. Hey. So lay your cards down. Park your Lexus and throw your keys up. Hey. Stick around, round, 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 round.
Stick around.
And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come throw some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado in my city. In the basement. That shit ain't pretty. Rugged whiskey.
Surviving.
Of red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right, we headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left, then spin me in the middle, boy, I can't read your mind. This ain't Texas, ain't no hold'em. Come take it to the floor.
I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now.
Too hot to think straight, too cold to panic, all of the problems.
sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor.
I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the floor now. Take it to the flow now, ooh. Oops, spurs. To the flow now, ooh.
Étonnant, hein.
Sympa.
Hein. Et c'est surprenant, ouais, c'est de la part de Beyoncé.
Bah, carrément. Et oui. L'album s'appelle Country Carter. Son nom, je crois, hein, Miss Beyoncé, c'est quoi son prénom? C'est Beyoncé Knowles Marshall et Carter, parce que c'est le nom de son mari, Jay-Z. Et cet album, ouais, on en parlera tout à l'heure, Pierre, mais oui, il y a
on peut l'évoquer là.
Hein. Tu veux commencer avec ça?
Oui, parce que je cherchais un peu désespérément un article qui nous remonte le moral dans ce monde diplomatique, parce que l'idée, évidemment, c'est que vous alliez l'acheter et puis le lire, quoi.
Absolument.
Ben, je suis allé chercher du côté de la musique, donc il parle, il y a un article sur les berruriers noirs, est-ce que vous avez connu ça?
Oui. Bah oui, bien
oh là,
sûr.
Attends.
Ouais, les berruriers noirs.
Les berruriers noirs, ça reste de la musique très militante, très d'extrême gauche.
Exactement. Donc, il y a un article sur les berruriers et il y a un article sur Beyoncé qui nous parle de son dernier album, de Country. Et on apprend des choses. Moi, j'ai appris, par exemple, que la Country, c'était au départ, ça a été un peu. Une décision des majors, enfin je ne sais pas si on appelait ça comme ça à l'époque, quand ça a commencé, ils ont décidé pour des raisons commerciales de diviser la musique en deux et de donner, d'appeler la country la musique des blancs. Et puis les noirs, ils auraient
le rhythm and blues.
Exactement. Mais en fait, c'est factice au départ. La musique et ils font de la musique ensemble.
Vous vous rappelez ce mini débat qu'on a eu il y a quelques mois où je vous disais que moi, la country, je suis pas rentré dedans, mais effectivement, j'avais lu des articles disant que
c'était
ça a été arrangé. Voilà, mais que c'était une musique de blanc.
Mais c'est pareil pour le rock. Hein. Quand on regarde la musique au niveau des années 50-60, la musique noire et blanche se mélange énormément. Mais du coup, il y a une classification qui classifie rock et rock'n'roll la musique des blancs et qui va classifier en rhythm and blues la musique faite par des noirs.
Donc voilà, et donc tout Beyoncé qu'elle est, elle nous fait un coup de génie, je trouve. Enfin, moi, j'aime beaucoup.
Ah oui, oui.
Un album de country.
Ah, oui, ça lui a permis d'être numéro un chez les Cowboys.
Elle était numéro un pendant.
Et les Cowboys, ils aiment pas trop les les beaux maths.
Oui, l'album est sorti en mars et
elle fait avancer les choses. Ouais. On va dire qu'elle fait avancer les choses.
Bah oui, mais il y a aucun album contemporain n'a été autant commenté, disent mes collègues qui s'occupent de la musique. Oui, vraiment, parce qu'il y a eu vraiment de la haine dans les petits médias sud des États-Unis en disant mais de quoi elle se mêle. Et pourtant aux États-Unis, après notre discussion, j'ai regardé un petit peu évidemment la country vient de la musique black, quoi, mais actuellement il y a un jeune homme, je crois, je sais plus comment il s'appelle, qui mélange hip-hop et il est noir. Alors il est noir, il est homosexuel et il mélange le hip-hop avec la country.
Ah oui, lui, oui. J'ai perdu son nom.
Pas Lil Nas, un truc comme ça.
Si. Donc voilà. Non, c'est pas Lil Nas, mais attends, je vais te le trouver.
Oui, bien sûr, ça marche. Voilà.
Donc, les choses avancent quand même.
Oui,
il faut dire ça comme ça.
Mais carrément. Et c'est pour ça qu'il faut aller lire cet article, écouter l'album de Beyoncé, ce que j'ai fait hier. Vraiment très, très bon.
Ouais, moi aussi, du coup, je suis allé le chercher, je suis allé l'écouter.
Ouais.
Un vrai bonheur.
Lil Nas X.
Bah, exactement. Allez voir aussi. Hein, moi, je sais qu'il y a des auditeurs qui le connaissent déjà. Donc, ouais. Alors, comment on fait pour passer de Beyoncé à la Russie?
Ah, je sais pas. Ouais. On va retomber dans des choses.
Elle va faire un disque avec les cœurs de la mer russe.
Non, juste essayer le truc de Cognac G, là, il y a quelques années. Sans transition.
Sans transition, exactement. Sans transition.
La Russie surmonte les sanctions.
Ouais, on va passer à un article très, très documenté, très intéressant sur comment se débrouille la Russie avec les sanctions occidentales. Finalement, c'est quand on lit l'article, ce que dépeint l'auteur, c'est l'état général de l'économie en Russie, qui est plutôt pas mal, qui s'en sort bien.
Pas mal, c'est enfin, ouais. ce que disent les chiffres.
Depuis deux ans, ça fait deux ans que ils ont un essor économique plus important que les États-Unis ou que l'Europe. Je sais plus, à 3,5.
C'est ça.
Voilà, j'ai pris à peu près. Ouais. Et alors là, il y a tout un florilège de chiffres au niveau de l'économie qui est quand même extraordinaire. Alors ils vendent ça, on le savait, on l'a déjà dit, ils vendent leur gaz et leur pétrole maintenant à des, ils ont changé de clients, ils sont allés chercher les Indiens, les Chinois, etc. Et puis en Afrique. Pas que, ils sont devenus aussi économiquement non dépendants par rapport à la nourriture. Ça, ils vendent leurs grains, ils vendent du métal, ils vendent également ils sont très forts pour vendre le nucléaire, voilà, ils vendent du nucléaire un petit peu partout. Donc finalement, ils s'en sortent bien au niveau économique. Les sanctions ne fonctionnent pas. Il y a plus de... alors là, je vais vous laisser aller le lire, parce qu'il y a tout un tas de chiffres qui vont être donnés. Je ne vais pas tous les répéter là.
Il y a beaucoup de chiffres.
Voilà, il y a plus de milliardaires aujourd'hui qu'il y en avait avant. Et c'est pas uniquement des milliardaires qui ont fait leur fortune autour du gaz et du pétrole et de l'armement. Ils ont fait aussi fortune grâce au... par exemple, au logement, parce que... Il y a un phénomène avec la guerre, c'est que comme ils vont chercher les soldats dans des couches de la population un peu défavorisées, on va dire, qui les payent très bien, ça j'ai appris ça, là, le soldat a été très bien payé, et tout ça, ça a retombé dans l'économie russe, et ça, le logement était plutôt florissant, etc. C'est incroyable l'image que je vais dépeindre de la Russie, là. Nous, on rêverait de ça, hein. Il y a même l'idée que les sanctions fonctionnent pas, ça peut se retourner contre les sanctions peuvent se retourner contre l'Occident, c'est-à-dire que les oligarques qui d'habitude ce que craignait la Russie c'était plutôt les fuites de capitaux, maintenant comme il y a des sanctions partout et que les gens ont peur, enfin les oligarques, les gens qui ont de l'argent quoi, ils ont peur de se le faire piquer en Occident, l'argent il reste en Russie.
C'est ça.
Et puis s'il reste en Russie, il profite à l'économie russe. Ouais. Donc voilà, il y a la description d'une économie russe qui finalement va plutôt pas mal. Ouais. Alors bon, on pourrait peut-être trouver des articles qui iraient pas forcément dans ce sens-là, mais voilà. Ils se demandent.
L'effort de guerre ne les affaiblit pas.
Mais non, mais c'est
ça. Il les renforce.
Oui. Mm-hmm. C'est bizarre parce que vous avez entendu.
Pays en guerre, pays prospère, pays heureux, pays foireux.
heureusement, nous avons un sage parmi nous.
Tout à fait, le philosophe Victor. Donc. mais vous vous rappelez que il y avait le ministre Le Maire, on en reparle, qui est venu à la radio au tout début de la guerre en disant nous allons casser l'économie russe.
Exactement.
Il y a eu plein de déclarations comme ça du côté américain.
Ça, c'était des déclarations tonitruantes qui n'ont pas convaincu grand monde, ni même lui, j'espère.
Ouais. Bon, c'est assez étonnant.
Ils en sortent une autre, c'est, vous vous souvenez, la fameuse, la Russie, le PIB de l'Espagne.
Oui, tout à fait.
En riant un peu, ils ressortent ce chiffre-là. En fait, c'est faux. Ouais, l'Espagne était à la 15e, la Russie était à la 8e place.
C'est ça, tout à fait.
Et puis, si on calcule, alors bon, j'ai pas ça en tête, mais d'une autre façon, elle serait même à la 4e ou à la 3e place. Peut-être qu'on est allé un petit peu vite. Comment que ça se fait qu'on s'est planté, quoi ? Pourquoi est-ce que les sanctions ne fonctionnent pas ?
Moi, je suis assez suspicieux de tout ça. Je pense qu'on l'a fait exprès.
Ah, tu crois ?
Oui. Oui, mais
pas dans le complotisme.
Mais je m'en fiche. Mais non, mais c'est pour dire aux gens, mais vous inquiétez pas, cette guerre, elle ne va pas durer. On va les écraser.
On va tout fermer.
Puis...
Autant effectivement, Poutine croyait qu'il allait plier l'affaire en quelques mois. Et puis, il s'est aperçu que non. Autant maintenant, on a pensé que le retour de bâton allait suffire et qu'il allait céder. Il ne cède plus maintenant, il est parti dans une guerre d'usure. la population est plus importante, il a une économie, on va dire, comme le disait Pierre, pas si en mal en point que
c'est ça.
Et donc, il continue tant que...
Et j'avais lu récemment un article dans Le Monde sur le fait que le Kremlin se réjouissait des scores extrêmement forts qu'avait fait l'extrême droite en Europe. Parce que du coup, l'extrême droite en Europe est effectivement pro-russe et anti-ukrainienne. Donc du coup, le soutien que apporte l'Union européenne actuellement à l'Ukraine va sans doute faiblir dans les prochains mois.
Voilà. Espérons que non, espérons que non.
Espérons que non, et espérons que Trump ne gagne pas non plus aux États-Unis, parce que là, après,
c'est fini.
Ce sont ses agents.
Ça nous promet des émissions animées.
Absolument.
En tout cas,
comme disait Napoléon, mais c'était en matière d'amour, une seule victoire, la fuite.
Oui, c'est ça.
Pour terminer sur cet article, l'erreur de jugement qui est faite au niveau de l'économie qui a été faite par rapport à l'économie russe, qui finalement s'avère beaucoup plus costaud que ce qu'on avait imaginé, est faite également au niveau international. C'est-à-dire que quand les Occidentaux lancent des sanctions, ils imaginent que tout le monde va les suivre.
Mais bien sûr,
que ça se passe.
Absolument.
Il y a même les BRICS qui s'organisent pour que la finance, on se passe du dollar. Je vais peut-être un peu vite et en gros, c'est ça.
Il y a quelques mois, je vous disais que je n'y croyais pas à ce qu'ils appelaient le Sud global, entre l'Inde, la Chine, les pays africains, un peu l'Afrique du Sud, la Russie. Il y a tellement de différences, mais en même temps, ils sont en train de s'organiser, quoi. Je vois régulièrement des choses qui passent. Ils ont envie de faire du mal et aux États-Unis et à l'Europe occidentale. Donc, attendons, ce monde est en train de changer.
Et c'est d'ailleurs tout le sujet du dernier Manière de voir qui vient
Tout à fait.
Le Sud existe-t-il ?
C'est clair.
Peut-être bien que oui.
C'est clair. On prend un petit peu de temps pour parler de l'article à trois voix, ça va se faire rapidement, sur l'article de Dominique de Villepin, ancien ministre des Affaires étrangères français, qu'on a connu avec son fameux discours à l'ONU. Et cet article, il est long. On va vous conseiller d'aller le lire, mais vraiment, nous sommes tous les trois d'accord là-dessus. Cet article est essentiel en ce moment pour comprendre la diplomatie française.
De Villepin, oui.
Mais il a le mérite.
C'est le meilleur et le pire, on va dire.
Ouais. Il a le mérite de faire réfléchir, parce qu'il dit notamment, c'est l'un des sous-titres de son article, la guerre n'est pas le plus court chemin vers la paix. Et il parle d'un nécessaire sursaut diplomatique de la France.
Tout à fait.
Moi, je pense qu'il est un petit peu, optimiste sur l'aura diplomatique que peut avoir la France. C'est un pays moyen, qui a une influence diplomatique moyenne.
De plus en plus.
Effectivement, il a bien pointé d'ailleurs dans son article les atermoiements de Macron. Un coup, il dit qu'il ne faut pas humilier les Russes parce qu'on pensait les battre. Et puis finalement, après, maintenant, comme ça coince, on parle d'envoyer des troupes, on parle d'envoyer des avions. Dans son article, il pointe bien ça. On peut être finalement, chacun, c'est à lire vraiment, il propose notamment que l'Europe s'organise, certes oui, mais y compris en matière d'armement, donc encore des dépenses colossales à créer des porte-avions nucléaires, à créer des avions, le remplaçant du Rafale, et donc à dépenser des sommes énormes. Alors lui, c'est peut-être le politique qui parle, et l'ancien ministre des Affaires étrangères notamment, qui fait que, je ne sais pas, en préparant son armée, on prépare sa défense, mais quand même, ça fait une escalade qui peut qu'inquiéter.
C'est ça. C'est là-dessus où, et je te rejoins complètement, c'est là-dessus où pêche sa démonstration. Ça s'appelle « La guerre n'est pas le plus court chemin vers la paix ». C'est un article à lire, vraiment. Parce qu'au début, en plus, il fait l'histoire.
Bien documenté.
C'est très, très documenté. C'est à lire dans le Diplo de ce mois-ci.
Le magazine de l'actualité Alter International.
Un bâton rompu. Pour la fin, on va parler de la Corée du Nord et ses voisins, ses frères, la Corée du Sud.
Oui. L'article s'appelle « Qui menace la péninsule coréenne ?» par Martin Hart Landsberg, qui est professeur d'économie. Et en fait, il part d'un constat, c'est qu'il y a un regain de tension, en tout cas depuis 2024, entre les deux Corées. Alors, les médias occidentaux pointent un certain nombre d'indicateurs par rapport à ça. D'abord, la guerre en Ukraine serait un terrain favorable pour une invasion, du coup, de la Corée du Sud, bien évidemment. Puisque, du coup, si même la Russie ne craint plus les sanctions internationales, pourquoi la Corée du Nord les craindrait-elle ? Il y a eu la démolition du monument aux Trois Chartres pour la réunification ainsi qu'un des nouveaux essais de tir de missiles. Et surtout, le 15 janvier 2024, il y a eu un discours de M. Kim Jong-un qui déclarait que la Corée du Sud était le principal ennemi de la Corée du Nord et a censuré les mots de réconciliation et de réunification dans les livres d'histoire nationale.
Absolument, ouais, j'ai vu ça. Ouais.
Donc ça, c'est terminé. Mais son discours concernait principalement l'économie, notamment la volonté de relancer l'industrie, notamment chimique et métallurgique. Donc voilà, si on se contente aux médias occidentaux, on a l'impression que voilà, la Corée du Nord s'agite dans un effort guerrier. Mais en fait, c'est pas exactement ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est dû à une détérioration de son environnement sécuritaire. Les États-Unis et la Corée du Sud ont conduit 42 exercices militaires conjoints l'année dernière. Ils en ont fait 10 de plus avec le Japon. À 7 reprises, des bombardiers nucléaires américains ont survolé la Corée du Nord sans être inquiétés. Il y a eu un accord entre les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon, un accord militaire en août 2023, notamment qui portait sur l'espionnage et sur l'utilisation des armes nucléaires. Et le président sud-coréen, en 2023, a inscrit la Corée du Nord comme principal ennemi de Séoul. Donc voilà, donc la situation, elle est quand même un peu... voilà. En fait, le discours de M. Kim est plus une prise en compte de la nouvelle réalité, militaire régionale que réellement un discours de va-t-en-guerre. En plus, y a une instabilité extrêmement forte en Corée du Sud actuellement. Le président est très impopulaire et a perdu les dernières élections législatives.
Tout à fait.
Voilà, donc du coup, ça n'augure rien de bon pour la qualité des relations interdiplomatiques entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et en fait, c'est un balai entre les deux. C'est un balai entre d'un côté les Américains, de l'autre côté la Corée du Nord. Par exemple, on a eu l'accueil d'un sous-marin nucléaire américain en Corée du Sud il y a quelques mois de ça. Du coup, les Coréens du Nord ont répliqué par des tirs de missiles. Pas sur le bâtiment, hein, bien sûr, mais pour montrer qu'ils étaient capables d'avoir une force balistique encore présente. Et en fait, j'ai appris un truc très intéressant dans cet article. Mmh. C'est que depuis la chute de l'URSS, la Corée du Nord tente désespérément de négocier avec les États-Unis un traité de paix pour mettre fin à la guerre de Corée qui dure quand même depuis 1950.
La paix n'est pas encore signée.
Il y a
un armistice.
Mais les États-Unis refusent.
Oui, bien sûr.
Alors pourquoi d'accord. On peut se poser la question. Mmh. Alors déjà, il y a une petite pastille qui est mise dans l'article qui explique que c'est une menace pour le complexe militaro-industriel américain. En effet, puisque la Corée du Nord représente une menace tangible et réelle, du coup, pour le complexe, pour notamment développer des armements de plus en plus puissants. Et aussi, les États-Unis réclament la démilitarisation nucléaire de la Corée du Nord.
Oui.
Donc ils veulent bien la paix, mais à condition qu'il n'y ait plus du tout de missiles nucléaires en Corée du Nord. Et la Corée du Nord est un peu coincée. En effet, son budget s'élève à 4 milliards de dollars par an, son budget militaire. La Corée du Sud, c'est 40 milliards de dollars. Et les États-Unis, c'est 900 milliards de dollars. Donc, c'est vraiment, c'est plus que du simple 10, quoi. C'est vraiment un petit pays qui lutte pour sa survie, en réalité, plus qu'un pays va-t-en-guerre qui cherche... enfin, voilà. Il cherche à lutter pour sa survie dans un environnement international hostile.
Ouais. Très, très bien. Très, très bel article. Qui menace la péninsule coréenne. Mais alors, dans l'actualité, vous le savez, j'en ai parlé un peu au début... je vous lis juste un extrait d'un article, je crois que c'est Web Courrier International. Voilà. Les habitants sont prévenus et ne doivent en aucun cas s'en approcher. Les médias sud-coréens rapportent ce mercredi, donc mercredi dernier, que la Corée du Nord a envoyé dans la nuit des ballons reliés à des sacs poubelles remplis de déchets, de papier toilette et même d'excréments d'animaux vers le sud. C'est pas friendly, ça ?
Non, c'est pas très friendly, non.
Non, mais comme quoi, ils ont des armes.
Oui, voilà, des biologiques, armes. Même.
Et heureusement, pour l'instant, ils en restent à ces armes-là et ils n'utilisent pas le nucléaire. D'ailleurs, dans cet article, il s'est dit aussi que les premiers à avoir introduit, finalement, le nucléaire dans cette partie du monde, ce sont les États-Unis.
Tout à fait.
Ouais, voilà. Et donc les autres se sont dit, bah, pourquoi pas nous. Et effectivement, quand on est dirigé par ce Kim Jong-un, qui est quand même pas trop fréquentable, c'est toujours un peu embêtant de laisser la boîte d'allumettes à un gars comme ça. Quoi.
Ouais, c'est ça. Mmh. C'est ça. Mais c'est vrai que dans l'article, il y a des choses que je savais qu'il y avait ce refus des États-Unis d'une véritable discussion sur la fin de la guerre de Corée et qu'il y a cette frontière à Panmunjom qui est bizarrement protégée, enfin bon, bref, et que c'était les Coréens étaient en demande d'un vrai moratoire de paix en disant il n'y a plus la guerre parce que cette région du monde est très dangereuse. On a notre ami Henri qui venait dans cette émission qui connaît bien là et qui nous en a parlé beaucoup. Oui, il y a des choses et c'est vrai que alors comment il l'appelait Trump, Little Big Man. il est peut-être fou, mais il est aussi tenu par des choses qui ont été écrites.
Bah, c'est-à-dire, il n'est ni plus inquiétant ni plus rassurant qu'un Trump, qu'un Poutine ou que quelques autres.
Bah, on est d'accord. Et ça, on peut le dire dans le diplôme, on peut le dire ici sur Radio Campus Orléans, mais c'est pas toujours entendu par les gens. Merci à vous les amis du Mon Diplo.
Merci à toi.
De ce rendez-vous qui est. On se fait un petit dernier rendez-vous en juillet ou vous êtes
Oui, on va essayer là si mes camarades ne sont pas encore partis camper.
Bah, Victor sera peut-être en vacances.
Je suis en vacances normalement jusqu'au 12, je crois.
Ouais. Ah oui, donc tu seras là, c'est début juillet. On se fait un petit dernier pour début juillet.
Oui,
pour
un petit dernier, voilà.
Que vous pourrez emporter sur les
plages. Parce que le Diplo, évidemment paraît tous les mois de l'année, y compris au mois d'août.
Et ça se lit, croyez-moi, très bien sur une plage. Merci à toi Pierre, merci Victor.
Merci à toi. Merci à toi Hassan.
On va se quitter en musique, on a un petit peu le temps. Raidon n'est pas là ce soir sur Radio Campus Orléans, mais sur Radio Campus Tours, vous retrouvez un peu de musique. Et puis Jazz Story à 21h. On va se quitter avec quelque chose lié à l'actualité. No One Is Innocent, c'est un groupe de punk français. Ils ont fait des choses un peu... Oui, plutôt sensé. Et j'ai pris ce morceau qui s'appelle « Putain, si ça revient », lié à ce qui s'est passé dimanche.
On se demande bien quoi.
Mardi prochain, je crois qu'on parle de ça. Il y a une manifestation en ce moment à Orléans.
T'aurais pu nous mettre aussi Tagada Jones, mort au con.
Mais oui, mais bien sûr. Il y a pas mal de choses. On aurait pu mettre Berry Ruel Noir. Parce que la jeunesse emmerde le Front National, ce qui n'a pas été apparemment vrai sur cette élection.
Non.
Et ce qui est très, très inquiétant, amis auditeurs et auditrices, vous avez des petits frères, ben, tapez-les. Ils vont pas vous
bon, bref. Et surtout, allez voter.
Et surtout, voilà.
Et surtout, allez voter
pour les législatives qui arrivent très vite, du coup.
Très, très vite, dans 3 semaines. Voilà. Donc, merci à vous et au deuxième mardi de juillet. Voici No One Is Innocent pour finir cette émission. Putain, si ça revient.
Retour de flamme avec tempête. Le pyromane tient l'allumette. Retour de flamme sur le bulletin. Et 2002 n'est pas si loin. Il paraît que tout va bien. Le changement, c'est pour demain. Faut conquérir et reconquérir. Et peu importe le moyen. Elle était belle en barésie. Elle a les charmes et les serpents. Aujourd'hui l'Europe est une vieille fille qui s'offre facile aux plus offrants. Jusqu'ici tout va bien. Les frontières, c'est pour demain. Retour de la sainte morale. On nous prédit le retour de l'ordre total. Hey, hey. Ah, si ça revient. Hey, hey. Ah, si ça revient.
Où sont passés les Canadiens?